Mais pour commencer, l'ami d'émission, on peut lui donner ce titre-là, je pense.
Je pense que oui, hein. Il y a un passeport spécial.
Il y a un passeport spécial. Il pourrait venir nous parler, dire « Ah, je veux venir vous parler aujourd'hui, ça serait correct, parce que c'est tout le temps super intéressant. » Mon ancien professeur, Guy Sioui Durand. Quoi, Guy?
Quoi, Aweti.
Bonjour.
Ben oui, on s'est vu il n'y a pas tellement longtemps à la station à Odanak.
Ben oui, aller mettre du gaz à Odanak. Tu m'as dit de mettre mes tailleurs d'été.
Vous avez des drôles de fréquentation, vous autres?
Ben oui. Il faut, quand on est autochtone, on va mettre du gaz sur les communautés en général.
Écoute, moi, je ne suis pas autochtone, puis j'y vais aussi.
Il faut savoir qu'à Odanak, il y a Kiuna.
Oui, il y a Kiuna, parce que tu es professeur là-bas. C'est là que tu as été mon professeur.
Exact.
Hey, on parle d'un livre qui est considérable, hein, qui s'appelle « Créativité autochtone actuelle au Québec ». C'est sous la direction de Louise Vigneault. Vous avez participé, évidemment,
absolument,
à ce livre-là, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Ça fait le point, en fait, sur les arts visuels, performatifs, musique, vidéo, dans le monde autochtone?
Absolument. On a un ouvrage universitaire et qui a, je dirais, une particularité qui fait pour moi, qui est tellement importante, c'est qu'il y a, via les entrevues transcrites, on a la parole et les propos d'artistes autochtones, et principalement beaucoup de Wendat, notamment. Un exemple, moi, je participe en ouverture du livre sur le mode d'une conversation avec Louise Vigneault, et non pas un essai ou un article comme un expert sur un domaine. Et pour moi, c'était important parce que Louise, je l'avais invitée en 2008 lorsqu'elle commençait ses recherches sur Zachary Vincent et que j'étais directeur artistique à Espace 400e où j'avais fait la grande exposition Zachary et ses amis pour placer, enfin démarrer une auto-histoire autochtone de l'art autochtone. Et donc, sur le mode de la conversation, pour moi, c'était une manière symbolique dans un livre écrit, savant, universitaire, de ramener l'importance de l'oralité, un peu comme nous, ensemble, via la radio, le médium nous permet la parole. Donc, pour moi, ça fait une entrée dans un ouvrage où qu'il y ait des entrevues avec Pierre Sioui, Michel Savard, Pierre Hulin, Virginia Pessimaveau-Bordelot et Roma Ouachiche, ou encore une entrevue qui nous rappelle l'importance de Gilles Sioui dans la musique autochtone.
Oui, pour moi, ça est plus là depuis quelques années, oui.
Ouais, ça ensauvage le monde académique universitaire. Et ça me semblait important. Sur le mode de la conversation avec Louise, ça me permet de placer cette vision d'un Wendat dans l'art. Et après, ben, on peut s'aligner les essais des experts universitaires. Fondamentalement, pour moi, ce qui est important, c'est peut-être la lettre T qui se décline de deux manières. Ça vous intéresse-tu, la lettre T?
Ben oui,
surtout si vous aboutissez à Charolienne, oui, allez-y.
Ouais, hein? C'est pas rien qu'une tente, mais c'est T aussi. Mais l'idée du temps qui file, du temps qui fait passer, mais ici, ça devient conscience historique collective. La mémoire, et qui fabrique la mémoire, qui raconte. Et nous sommes entrés dans cette ère de décolonisation où c'est plus jamais sur nous sans nous, après avoir été très longtemps soit effacé ou soit être que l'objet d'études. Donc pour moi, cet aspect de présence de la parole et d'une présence est importante. Deuxièmement, ça se décline, mais pour moi, c'est très important. Territoire. Circuler dans les territoires, comprendre les territoires pluriels des Premières Nations, mais aussi, et c'est ce qui est intéressant selon moi, des contributions des expertes et experts, c'est qu'on entre dans les territoires imaginaires, et cette fois-ci sur le mode de l'analyse. Je suis tellement content, par exemple, qu'on ait un essai de Elisabeth Kane, hein, qui était ma voisine à Wendake et qui vient de nous quitter malheureusement. C'est la créatrice de la boîte rouge vif, et à travers son essai, par exemple, on entre dans un questionnement des muséologies de toute cette époque où l'art, il est encore beaucoup dans des musées d'anthropologie, et voilà qu'on s'affranchit dans des centres d'artistes, des événements, des enseignements Et c'est ce que racontent plusieurs des experts. Je dis des experts parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en histoire de l'art.
Comme Véronique Audette, qui est une grande spécialiste de la musique.
Véronique des musiques Inou, autochtones.
Ouais. Autochtones et en particulier Inou.
Oui, oui, et en particulier Inou, mais qu'elle introduise, par exemple, il faut se souvenir l'importance, par exemple, le petit texte d'Edith Anne Pajot qui nous ramène au Collège Manitou des années 70, où commençait à germer cette musique autochtone et qui va nous amener après ça dans des festivals comme Inou Negamou sur la Côte-Nord. Mais, donc, une histoire qui est au présent et qui arrive dans un ouvrage de facture et que les presses de l'Université de Montréal, c'est important parce que y a là un dialogue qui est pas juste une qui est imprimé, qui est un livre et que je recommande d'ailleurs dans la mesure où on entre autant dans les réflexions comme je disais avec Elisabeth Kane sur la, la géologie, le design, Stan Pajot qui rappelle le Collège Manitou les origines et qui on sait que ça va prendre 40 ans plus tard qu'il y a l'institution Kiuna, mais l'importance des arts et des moyens de diffusion à l'époque. Véronique, on en vient d'en parler, les musiques autochtones, mais qui, elle, vraiment, elle entre dans le cœur même des textes des musiciens. Oui.
Oui. Non, mais c'est parfait comme ça. C'est tout le temps super intéressant. Mais je saute sur Elisabeth Kane, un sujet que on ne connaît pas l'importance de cette femme-là, Wendat, dans la diffusion de la culture autochtone, dans tout son travail académique. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu, parce que elle est décédée récemment. On a vu un article dans Le Devoir, totalement. Mais c'est une femme super importante, mais qu'on a peu entendu parler au point de vue grand public. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus d'elle, s'il te plaît?
Je vais vous parler avec beaucoup d'émotion de Babette. C'est le même que je l'appelais quand on jouait enfant sur la réserve. On était des voisins. Et elle va être une des pionnières à étudier et à entrer par le design et la muséologie, mais elle va faire toute sa carrière à Chicoutimi.
Oui.
Donc, à l'Université du Québec à Chicoutimi, où elle va fonder la Boîte Rouge-Vif, qui va devenir un organisme expert-conseil de grandes expositions. On n'a qu'à penser à nous, les Premières Nations, au Musée de la civilisation à Québec. Et présentement, l'exposition Voix autochtones d'aujourd'hui qui est au musée McCord-Stewart. Donc, c'est une pionnière qui s'est non seulement aventurée de manière académique, mais aussi pratique, mais dans les grandes institutions et souvent avec, c'est pas comme moi qui est flamboyant ou qui prend, ou d'autres qui prennent la place. Elle était plutôt derrière un travail de pionnière, de fond. Et avec beaucoup de... pas sur les devants des médias, par exemple. Donc, des articles, des essais, et reconnu ces dernières années. C'est dommage qu'elle nous ait quittés. C'est peut-être à ce moment-là qu'on aurait eu davantage sa présence sur les scènes publiques, par les milieux de chercheurs, les milieux de changement de la muséologie qui s'amorce avec le nouveau siècle, le 21e siècle. Donc, elle a même reçu des mentions dans ces milieux, mais souvent trop d'experts académiques, comme ayant contribué à amener une perspective autochtone et changer progressivement tous les enjeux qu'il y a dans les musées comme modèle à la fois de collection, d'exposition, mais aussi quelque part de mise en valeur. Et ça, ben, comme trame de fond d'une décolonisation, c'est bon qu'on le souligne ensemble, je pense. Merci.
Guy, il y a une autre personne, Guy, qu'il faut souligner là-dedans, vous en parlez avec beaucoup d'enthousiasme, c'est ce premier artiste moderne, Wendat, qui est Zachary Chariolin-Vincent.
Ah ben absolument, parce que moi, quand je parle aux étudiants, tantôt, j'ai employé la lettre T. Je dis, si on veut tendre vers une définition pour mieux comprendre et expliquer l'art autochtone, je lui propose les quatre P. Et parmi mes quatre P, la première lettre avec laquelle on entre, c'est les pionnières et les pionniers. Et Zachary Terrelin-Vincent, c'est un pionnier qui va opposer, surtout que cette année, que ce soit à présence autochtone, que ce soit dans des événements de photographie, on se pose la question du portrait. tout le portrait qui autrefois était fait par la peinture, avec l'arrivée de la photographie, tout va changer. Et voilà qu'à la fin du 19e siècle, de manière autodidacte, mais confrontant les artistes de l'élite de Québec, canadienne, française ou anglophone, Zachary Vincent va passer de celui qui se fait peindre par ses autoportraits. Il va introduire la critique du système. Il va mettre en place une référence de pionnier d'une auto-histoire autochtone, de l'art autochtone. Et il va s'intéresser de manière artistique très curieuse au nouveau médium qui est la photographie aussi. Donc, on a là une référence et qui est importante lorsqu'on veut avoir des repères dans le temps, mais aussi des repères dans des collections, des musées. Et c'est intéressant que la deuxième exposition que nous, on a fait, j'avais été co-commissaire avec Lucas Picard-Sioui, en 2016 au musée à Wendake, Mémoire d'un peuple, le legs et l'héritage de Zachary Vincent. Et un peu comme j'avais commencé en 2008, et on voit une experte, Louise Vigneault, qui signe cet ouvrage-là, qui a aussi signé un livre, participé comme experte avec nous sur faire placer ce repère dans l'histoire de l'art tout court d'un grand artiste. Et ça, c'est quand même important aussi comme travail intellectuel savant.
Dans la conversation au début avec toi puis Mme Vigneault, vous parlez justement du fait que les artistes autochtones, on les voit beaucoup dans la transdisciplinarité. Je m'excuse, là, je le dis peut-être pas comme il faut. Mais bon, bref, on est dans plusieurs médiums, que ce soit le cinéma, le chant, ça peut être pour certains la sculpture, les arts écrits, les arts visuels, les arts numériques. Puis, on a un article justement par rapport, puis tu nous parlais dans le cours que tu nous avais donné, moi j'ai été ton étudiant en 2016, j'imagine que c'est encore ça aujourd'hui, du travail qui a été fait au Collège Manitou, de comment quelque part le Collège Kiona est un héritier de ce Collège Manitou-là, et il y a un article particulier, puis ma mère, j'imagine que sa transdisciplinarité a pu aller la chercher là-bas parce qu'elle était étudiante à Manitou, Matériaux traditionnels et artisans visiteurs au Collège Manitou. Est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, de cet article-là?
Oui, oui.
De qu'est-ce qui se passait au Collège Manitou?
Et de qu'est-ce qui se passe présentement, puis ça devrait intéresser tous les auditrices, les auditeurs. Cette année, au Musée d'art contemporain des Laurentides à Saint-Jérôme, débute l'année l'effet Manitou, où les archives, il va y avoir les anciens qui vont revenir, et on sait que la jeune Christine Sioui, ta mère, mais aussi Monique, sa sœur, vont être des personnages qui vont passer par Manitou et qui vont jouer un rôle important, tant dans le design graphique de l'aigle, les imprimeries. Et on sait qu'il y a Domingo Cisneros aussi qui va enseigner, justement, sortons du folklore et occupons toutes les formes de nos imaginaires. Et ce faisant, ben, on renoue ce que moi, je fais à Manitou. Je donne deux exemples. Le Festival de Cannes est ouvert. Il va y avoir dans le volet des courts-métrages la présentation première mondiale du court-métrage fait par Catherine Boivin à Tikamek, qui est passée par
Kiona.
Kiona, qui a obtenu le prix Manitou Kiona, que j'ai créé en 2017, la deuxième année.
Il est une artiste multidisciplinaire, visuelle.
Une artiste de la performance, ouais. de la vidéo cinéma.
De la course.
De la course, et c'est justement son vidéo, sa création de la course, mais elle fait le lien avec la langue, avec la métaphore du territoire. C'est magnifique. Elle est à Cannes. Comme, par exemple, cette année, il y a l'exposition « Les énergies libérées ». C'est toutes des petites mini-sculptures qui s'inspirent du bestiaire de Domingo Cisneros qu'il avait fait, lui, en sortant de Manitou. Okay. Et c'est fait par ma classe et c'est présenté présentement et ça va être là au musée d'art contemporain à Saint-Jérôme. Et ça l'a ouvert en grande pompe, je dis passer, le gala Méritas à Kiuna où Christine Sioui-Alouat, Lise Bastien étaient des fières représentantes toutes jeunes à l'époque au Collège Manitou. Imaginez ce lien, cette transmission qui se fait non seulement par cette aisance que nos artistes autochtones investissent tous les médiums et toutes les formes de création, ça renoue avec ces grands rassemblements autour du feu, hein, où moi j'aime à dire que nos artistes sont nos sociologues. sont aussi nos ambassadeurs, sont aussi ceux qui, avec une théâtralité par les chants, les sons et la manipulation des peaux tendues qui deviennent des films, des œuvres animées. Mais
ici, oui, Durand.
Il y a un lien qui fait que plus que jamais, l'art actuel, c'est fascinant de voir cette place.
Vous fonctionnez sur des piles solaires, vous, hein? C'est impossible de vous épuiser, là.
Donc, l'énergie, c'est aussi ce qui fait, par exemple, les grandes œuvres que crée un Ludovic Bonnier dans l'art public. Oui, disons que ça arrive de temps en temps que de l'énergie, c'est une bonne affaire.
Ben, c'est une très bonne affaire, Guy, parce que c'est tout le temps intéressant de t'écouter, mais on prend une petite pause musicale, on te revient, on continue avec le Collège Manitou. Tu n'as pas exactement répondu à ma question. On est de retour avec Guy Siwi Durand, qui vient nous parler du livre « Créativité autochtone actuelle au Québec, art visuel et performatif, musique et vidéo », donc sous la direction de Louise Vigneault. Guy, bon, tu nous as parlé un peu du lien avec Manitou et aujourd'hui, mais à l'époque, on avait préfiguré que l'art autochtone pouvait pas être seulement en peinture, pouvait pas être seulement... Les artistes autochtones étaient multidisciplinaires par nature, tu penses? Est-ce que c'est comme ça qu'on est venu à l'enseigner à Manitou à l'époque?
Je vais vous faire un scoop.
Oui.
Je viens juste de terminer ce qui va devenir la préface du livre que va sortir Éditane Pageau sur le Collège Manitou.
OK.
Ça va s'appeler... Et je vous dis un scoop dans la mesure où... voici. Toute la fin des années 60 et le début des années 70 concourent pour que on est dans la période de la contre-culture. Il y a eu le pavillon des Indiens, Expo 67 autonome, qui marque, il y a l'Indian Movement. Il y a un fait incroyable, cette réalisation de la prophétie Hopi. Bon, on le voit dans un langage mythologique et non pas que rationnel. La première phrase qu'on entend quand les humains atterrissent sur la Lune, c'est The Eagle has landed, l'aigle a aluni. Et c'était la réponse du vieux sage qui avait dit aux jeunes, qui avait posé la question, quand est-ce qu'on va cesser de n'être que dans des réductions et qu'on va retrouver notre place dans toutes les Amériques après 400 ans de colonisation? Et le vieux sage avait dit, quand l'aigle posera ses pattes sur la Lune. Donc, il faut sentir là-dedans toute une jeunesse et un mouvement de contre-culture, mais aussi d'installation, que ce soit dans la société québécoise avec l'arrivée des cégeps, que ce soit cette effervescence de militantisme et d'activisme qui se réveille. Il faut savoir qu'à la Macasa, dans les Laurentides, il y avait une base militaire qui, pendant 50 ans, était le lieu d'ogives nucléaires durant la guerre froide. Ça se termine, et c'est dans les baraquements, comme si ça redevenait un village de maisons longues, que va se placer pendant 3 ans l'aventure incroyable du Collège Manitou, où vont converger jusqu'à 700 jeunes autochtones de toute l'Amérique.
Et pas en anglais, en français, oui.
En anglais, en français. Et c'est là que Christine, Lise Bastien...
Ghislain Picard.
Ghislain Picard et tout ça vont se retrouver, non seulement dans un collège avec une pédagogie qui ne serait que celle appliquée par les ministères de l'Éducation, mais dans un lieu d'autodétermination communautaire, dans un lieu où les cours, soudainement portés par les arts, dans tous les domaines, théâtre, cinéma, arts visuels, danse, chant, on sent que la route des parois va revenir. On sent que tout à coup, les formes de l'imaginaire pendant 3 ans qui sont là et le mode de vie est celui qui se détache, se démarque. Qu'est-ce que ça va donner?
C'est de la décolonisation avant que le mot soit trendy. Hein?
Avant que le mot, il faut toujours, comme tantôt je disais, on parlait de Zacharie Vincent, un pionnier. Là, on trouve un moment clé à un point tel que cette effervescence-là va ne durer que 3 ans, va être fermée brutalement par l'armée et par l'absence des fonds. C'est que l'activisme, le militantisme, ça fait pas tout à fait l'affaire. Il faut se souvenir que dans les années 70, les pensionnats fonctionnent, autochtones fonctionnent à plein régime. La loi sur les Indiens est à peine modifiée. Et soudainement, c'est la jeunesse. Et là-dessus, il faut saluer un moment d'autodétermination et d'autogestion qui ne mourra pas là. D'où mon titre de la préface que j'ai écrit, « Les énergies libérées et l'exposition ». Et ça, ces énergies libérées-là...
Ça, Guy, c'est l'aspect social, c'est l'aspect historique.
Oui.
Mais je voudrais vous citer, c'est tout à fait dans la même ligne de ce que vous dites là, Vous dites dans ce livre, là, vous parlez d'un futur livre, vous avez tellement de contenu que pendant qu'on parle d'un livre, il nous parle d'un autre, là. Mais, mais vous dites dans ce livre-là, l'art tend à changer le monde et l'art autochtone tend à changer l'art. Parlez-moi de ça un peu.
Changer le monde par l'art, c'est donner toute l'importance à nos rêves et quelque part ramener pourquoi il y a l'économie. Pourquoi il y a la politique si ce n'est pour la culture commune, vivre ensemble, célébrer nos rêves et être heureux? Donc, changer le monde par l'art, et changer l'art par l'art autochtone, c'est placer cette vision, j'aime mieux employer vision par exemple que théorie, j'aime mieux, c'est ce que j'appelle ensauvager, même les manières de penser académiques, et de voir comment, regardez aujourd'hui, cette incroyable tension qui nous mène vers deux choses. Le besoin de guérison communautaire et le besoin, la nécessité de sauver la planète. Et déjà, à Manitou, et nous, les artistes autochtones, on est porteurs non seulement de cette attraction vers l'idée de guérir, d'amener des apaisements, de changer cette éco-anxiété qui est établie présentement dans les jeunes générations, mais encore plus, un art vert, un art forestier, un art éco-responsable sont les messages que nous portons dans toutes les formes.
Quel mot riche vous avez donné tout à l'heure en parlant d'ensauvagement. C'est magnifique. Oui.
C'est au sens d'insoumis et d'indomptés, et non pas ces insultes qui sont venues avec les hommes qui portaient des robes noires, que nous, on appelait les atiens-statis, hein, les crasseux, ceux qui arrivaient avec l'idée du péché, avec l'idée de renverser un monde symbolique par un autre et qui se présentait comme vrai. Je ne reparlerai pas trop de la christianisation, tout ça, mais on a vu l'an passé le pape venir et on voit maintenant même les changements. C'est fondamental. Au moment où ce livre paraît Créativité autochtone actuelle, il y a rejet, abandon de la théorie de la conquête hein, qui nous vient d'un ancien monde. C'est tout à fait cette histoire des idées qui vient s'arrimer à l'action. Et c'est pour ça que moi, j'aime, comme commissaire d'exposition, comme événement, de dire on pense en action et je convie les artistes. Et c'est ça qui place les rêves. Mais derrière ça, on a l'action politique, sociale, et je pense que notre assemblée à Radiophonique ensemble, maintenant, on n'est pas très loin d'une forme d'activisme. Je suis sûr qu'Alexis est d'accord avec ça.
Ah ben...
D'accord. Pas le mot.
Non, mais de toute manière, tous nos invités autochtones nous le disent. Naître autochtone, c'est quelque part devenir un activiste politique. C'est faire de l'activisme du moment où on veut juste être comme on
c'est
est.
C'est devenu une nécessité presque identitaire là, actuellement.
Moi, je la place même cette idée hein, de la vision globale, holiste, animiste, que le mot Rotera en langue huron-iroquoise, mais aussi Ankos dans les langues algonquiennes, disent tout est relié, tous ensemble. Et ça questionne tous les aspects de la vie. Et ce qui est beau avec le livre qui paraît, la vie intellectuelle, la vie spirituelle, ça inclut hein, non seulement la vie des idées, le rapport sacré à l'univers, mais encore les sciences. Et ça, c'est important d'avoir cette perspective-là. C'est ça, changer les visions, les perspectives, tant dans l'art que dans la manière de communiquer et de réfléchir le monde.
Le prochain livre, est-ce que c'est toi qui l'écris, Guy? Est-ce qu'on va avoir... Oui?
Je vais faire un autre scoop. Je suis en train... On m'a demandé, après, il y a 50 ans, la sociologie au Québec s'affranchissait du clergé et on avait les fondateurs de l'École de Laval, l'École de Montréal. 50 ans plus tard, on m'a demandé de participer à un groupe de sociologues pour redéfinir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a évolué dans la sociologie. Moi, on sait que j'ai un doctorat en sociologie comme tel. Et donc, je prépare un essai qui s'appelle « Les sociologues hurons ».
Ah bien, on arrête là, on arrête là, on a rien. Il reste plus de temps, Guy.
Oui. Voulez-vous, le temps, c'est ça que je vous ai dit, on a commencé avec ça.
On a peu.
Tiaouet.
Un autre P, Tiaouin.
À prochaine.
Au plaisir.